Le thème, c'est s'entendre avec nos frères et sœurs. C'est ce que je vous avais dit, les jeunes, la semaine passée, qu'on allait discuter de ce sujet. Et vous savez, il y a un lien entre s'entendre dans la famille, entre frères et sœurs, et s'entendre entre frères et sœurs dans la famille de Dieu. Il y a un lien. Je pense que je vais me prendre un lutrin, un instant. Par contre, oui, parce que je pense que ça va être difficile à faire. Merci beaucoup. Alors, donc, le sujet est double. Voyons. Comment ça marche? Oh, yeah. OK. Dans notre famille et dans la famille de Dieu. La famille de Dieu nous montre comment c'est important de s'aimer entre frères et sœurs dans la famille. Et vice-versa, l'expérience de famille est un exemple dans nos vies qui nous prépare pour être un bon frère, une bonne sœur dans la famille de Dieu. On a de la concurrence. Je vous ai dit tantôt, on est adopté dans une famille. Là, je parle de l'Église. Ça, c'est un thème vraiment important dans la Bible, que être chrétien, c'est pas juste croire en Jésus et être sauvé, c'est faire partie d'une famille reconstituée avec des enfants adoptifs. Et je vous avais mentionné ce verset. Oh, quel plaisir que c'est pour des frères et des sœurs, quand on parle de l'Église. Et quel bonheur que d'être ensemble. Donc, ça vient de l'Ancien Testament. C'est un chant qu'on chantait dans le temple. Donc, déjà, les Juifs dans le temple se réjouissaient d'être frères et sœurs adorant Dieu dans leur culte à eux, et nous aussi, comme croyants en Jésus-Christ, c'est censé être une joie. Jésus aussi a dit, en parlant de nous en tant que frères et sœurs, « Je te demande », c'est Jésus qui prie à Dieu le Père et qui dit, « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Alors, l'image que Jésus a de cette unité, qui est une unitaire frère, ça c'est quelque chose de très fort et de très positif. C'est censé nous inspirer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tout rose d'être frères et sœurs. Et je pense que qui a déjà eu des problèmes avec ses frères et sœurs à la maison, dans sa famille? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas levé la main. Et oui, oui. Ah oui, ben lève la main. J'ai pas dit qui est. Oui. Alors, pour beaucoup de gens dans notre société et peut-être même dans notre communauté, quand on dit frères et sœurs, ça évoque quelque chose de douloureux, de négatif. Cheryl et moi, on a connu une dame qui travaillait dans une garderie où Jessica et Lauriane étaient autrefois. Et non, c'était Jessica seulement, bref, peu importe, qui nous dit qu'elle avait deux garçons adultes. Et elle nous expliquait comment parce qu'elle comparait ses deux enfants quand ils étaient petits, nos deux enfants, elle dit, ça peut très mal tourner. Moi, mes deux fils, ils saillissent tellement que quand il y en a un qui est dans un autobus, en plus, ils habitent pas loin l'un de l'autre, l'autre monde dans l'autobus, il va voir l'autre, il va même pas lui parler. Il va même pas lui dire bonjour. Et ça nous avait vraiment troublé que ça peut aller jusque-là. Les relations difficiles entre frères et sœurs ou entre frères ou entre sœurs. On voit aussi que dans l'Église, il peut y avoir, ça peut mal tourner. Regardez ce verset de 1 Timothée, donc une épître attribuée à l'apôtre Paul, qui est donc vers la fin de son ministère. Et regardez ce qu'il dit, c'est quand même intéressant. Donc, on parle des premières églises, on parle des hommes riches qui ont des serviteurs et des esclaves. C'est comme ça que ça marchait dans ce temps-là. Il pouvait y avoir des chrétiens. Les esclaves, comme les maîtres, pouvaient être croyants dans la même église. Et c'est marqué que ceux qui ont des maîtres croyants, donc, ceux qui sont serviteurs et qui ont des maîtres croyants, ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères. Donc, si Paul a écrit ça aux premières églises, c'est que, apparemment, il y avait un problème que les serviteurs travaillaient mal ou trichaient ou manquaient de respect envers leur boss sous prétexte, ben, c'est mon frère en Christ, il va me pardonner. Je vais mal travailler, je vais prendre des choses qui sont à lui. Enfin, j'imagine un peu, et c'est pour dire que l'appel de vivre comme vraiment comme frères et sœurs, c'est un bel appel, mais il y a des défis. C'est pas toujours rose. Les défis d'être frères et sœurs, c'est qu'on peut prendre l'autre pour acquis, comme on vient de voir. Et aussi, on ne se choisit pas. Hein? C'est pas comme nos amis qu'on choisit. On est stocké avec nos sœurs, nos frères. Alors, comment apprendre à être un bon frère, une bonne sœur? On va parler en ce moment dans la famille. Je voulais dire, est-ce qu'il y en a qui sont enfants seuls ici, qui n'ont pas eu de frères et sœurs? OK, bien, ça va raccourcir mon enseignement. Parce que, quand même, c'est un autre défi. Quand on n'a pas de frères et sœurs, peut-être c'est pas évident comment fonctionner comme frère ou comme sœur dans l'Église. Mais peut-être que ces gens-là sont un peu comme Jésus, qui était fils unique, qui est venu et qui a trouvé dans la famille de Dieu beaucoup de frères et sœurs, et ils peuvent peut-être suivre son modèle. Mais ce que je voudrais faire maintenant, c'est poser une question. On va essayer d'aller plus en détail sur les problèmes qu'il peut y avoir, les défis. Des relations. On va commencer avec les petits frères et les petites sœurs. Qui a ou a eu des petits frères ou des petites sœurs? C'est bien. Et est-ce que les petits frères et les petites sœurs sont un cadeau?
Oui!
Non, je demande pas aux petits frères. Je demande aux grands frères. Ça dépend. Oui. Oui, alors peut-être certains d'entre vous vivent des difficultés avec vos petites sœurs ou vos petits frères, et peut-être vous allez voir, mais en fait, il y a des patterns, il y a des choses qui arrivent, qui sont... Alors, quels sont le genre de choses que vous trouvez difficiles avec votre petite sœur ou votre petit frère? Oui?
Dans le fait, c'est le partage de la chambre.
Le partage de la chambre? OK. Est-ce que d'après toi... La petite sœur posait plus de problèmes que la grande sœur?
Oui, elle faisait pas de ménage.
Ah, ben, c'est ça. OK. Alors, oui, ben, écoute, prépare-toi pour écrire. Mais tu peux écrire comme partage. Je pense que ça, c'est un point important. Est-ce qu'il y a d'autres défis? Oui? Les petits, ils copient. Ils copient. Lauriane, oui. Alors, je pense que c'est. Oui, moi j'ai eu quatre petits frères et sœurs. Et oui, je me reconnais là-dedans. Oui, il y a quelqu'un. Oui. Oui, oui. Injustice, ou je sais pas comment dire. Ben c'est dans le sens que les parents sont plus durs sur les premiers, puis après ils se disent ok, ben lui il a mal tourné, fait que l'autre je vais être oui. Mais c'est pas par exprès, mais oui. Inégalité peut-être. OK, mais quelque chose. Mais favoritisme, c'est bon ça. Sentiment. Oui, OK. Oui, mais c'est vrai que souvent, les plus grands... Moi, c'est la plainte que ma grande sœur avait par rapport à moi, n'est-ce pas? Oui, et c'était pas de ma faute, c'était de leur faute. Non, non. Je vous taquine. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui! Fouine dans tes affaires. Ils prennent tes affaires. Oui, moi j'avais un chandail que j'avais acheté. J'avais fait un voyage en Alabama quand j'avais fini mon bac à l'université. Et puis, j'ai acheté une chemise vraiment style deux flics à Miami, là, tu sais, avec des gros flamencos dessus. Puis, c'est juste mon frère qui l'a porté, mon petit frère. Fouille et fouine? OK. Non, ça, c'est vrai. Ils prennent tes affaires. Est-ce qu'il y a des choses plus émotionnelles? Jalousie. Oui. Baveux, OK. Baveux. Mettons baveux. Provocateur. Oui, il peut y avoir simplement des différences de caractère. Oui, ça, on s'en vient. Ah, préparez-vous, les jeunes. La prochaine diapo, c'est pour vous. Mais attendez, est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment importantes à dire? Oui! Oh! C'est vrai! Oh, oui! Stouleur, en français international, un délateur. Les délateurs. Un dénonciateur. Un porte-panier. Oui. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas, Lauriane? Mais moi, je l'ai fait aussi. Je me souviens. OK. Bien, alors, je crois que ça commence à se remplir un peu trop. On va passer. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre d'important à dire. Alors, oui, les grands frères et grandes sœurs, est-ce que c'est une joie totale? Oui. Non. OK. Alors, quelles sont les les choses que vous avez vécues avec vos grands frères ou grands sœurs qui sont des défis? On va pas rester dans le négatif, mais il faut quand même mettre le doigt sur... Alors, Hélène d'abord et ensuite, votre nom c'est?
Viviane.
OK, Hélène. Oui. Oui, OK, mettons les deux. Autorité exagérée, on va dire? Excessive. Puis mets comme barre oblique, ouais, c'est beau. Puis mets modèle à suivre. Et ça, c'est très vrai. Moi, j'ai trouvé, parce que j'avais une grande sœur, c'était peut-être moins. Et toi, c'était-tu une grande sœur ou un grand frère? Deux filles, oui. Alors, je voyais pas ma grande sœur autant comme un modèle, mais j'imagine que ça peut être le cas. OK, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oh oui, Viviane, c'est vrai. Oui? Wow! Oui. Oui. Alors, comment est-ce qu'on pourrait attendre des parents? Est-ce qu'on peut dire? C'est parce que ça vient des parents, cette attente, non? Oui. Attente. Exagérée. C'est une attente exagérée des parents, mais pour s'occuper des plus jeunes. Ça, c'est vrai. C'était vrai pour ma grande sœur. En tout cas, la manière qu'elle le ressentait. Lauriane, as-tu quelque chose à dire? Oui. Pense-y, Jérémy. Oui, alors, avantage financier. Avantage financier, barre oblique, l'enfant pauvre. Oui, c'est vrai, hein? Oui. OK. Alors, avantages financiers, mais donc, enfants pauvres, peut-être, on se comprend. Non, c'est, là, c'est le plus jeune qui est en train de répondre, là. Est-ce que mon grand frère, c'est une joie totale pour moi? Puis là, mais avantages financiers, /, enfant pauvre. Donc, c'est le pour et le contre. Enfant pauvre. Là, lui, il a dit en dessous, privilège du plus vieux. Ben, c'est vrai, ça aussi. Claire, tu voulais dire quelque chose? C'est beau. Lauriane? Oui, ça, on l'a dit à l'autre diapo. Merci de le répéter. Oui, alors, c'est super, c'est ça. T'as pas souffert peut-être autant. Mais un enfant du milieu peut souffrir aussi de certaines choses particulières. Pas toi. Oui, Daniel. Oui. Oui, blâmé par le plus vieux. Oui, oui, c'est vrai. Puis quand vous faites de l'Internet ensemble, je sais pas moi, par exemple, deux sœurs, je sais pas, on va donner un exemple, qui sont en train de faire, mettons, jouer à... on est sur... Oui, ou Sims, ensemble. Est-ce que... C'est qui pose plus problème, la plus... Bon, OK. Oui. OK. On va essayer de conclure. Oui, Jérémy? Oui. Alors, tu peux mettre sous l'ombre du plus vieux. Ça, c'est très vrai. Peut-être que ça peut être très intimidant. Et ça peut être aussi démobilisant si le plus vieux est très talentueux. Peut-être toi-même, si tu es talentueux, tu vas peut-être te retenir, ben, tu te dis, ah, ben, je vais pas être aussi bon que lui. Oui? Oui, mais tu peux le mettre dans le même point, peut-être, slash. Difficulté à se démarquer ou vouloir se démarquer. Oui. OK. Moi, je pense aussi, il y a le côté physique aussi, peut-être plus chez les gars, que le plus vieux, il peut se faire frapper, tabasser, non? Ça arrive pas dans vos familles, ça? OK, d'accord. OK. Ben, on va passer à la prochaine diapo. Merci. Donc, ça, c'est pas pour dire c'est des absolus, c'est pour dire il y a beaucoup de choses qui font que une relation qui est censée être belle et profonde et peut être endommagée ou peut avoir des gros obstacles. L'enfant seul, on en parlera une autre fois. On va passer à la prochaine diapo. Toi, tu te considères... Oui, tu n'as plus besoin d'écrire. Comme je disais, si vous avez des frères et des sœurs, ou un frère ou une sœur, Dieu vous a donné un beau cadeau. C'est une relation qui peut et qui normalement devrait être une relation importante et de longue durée. Parce que vous avez tellement en commun, normalement. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Si c'est pas le cas pour vous, ça veut pas dire que c'est de votre faute nécessairement. Mais quand même, pensez-y, vous avez eu les mêmes parents, le même héritage culturel, vous avez eu beaucoup d'expériences communes, vous avez le même sang. Alors, c'est moi qui... Proximité et lien profond. Et il y a le potentiel, là, d'une amitié merveilleuse. Et combien de fois est-ce qu'on entend parler de personnes qui s'entendaient tellement pas quand ils étaient jeunes et qui sont devenus d'amis profonds? Je pense que c'est un pattern qui est fréquent où les choses qu'on a vues tantôt ont éloigné les gens les uns des autres, puis les aléas de la vie aussi, mais par la suite, les gens se rapprochent. Quand, grâce le travail du temps et de la maturation, on arrive à voir, waouh, on a tellement en commun, et des murs peuvent tomber. Je pense par exemple à ma relation avec ma grande sœur. On était vraiment, elle me détestait quand on était ado. Et maintenant, on est des amis, vraiment. Et on devrait investir plus. Je devrais investir plus. Mais les murs sont tombés. Et donc, c'est pour vous encourager, vous, les jeunes. Mais c'est aussi pour dire pourquoi attendre? Pourquoi attendre? C'est ce que j'essaie de dire, c'est maintenant qu'il faut essayer de se rapprocher, de se réconcilier, afin de ne pas attendre trop tard que un déménagement nous sépare pour très longtemps ou d'autres aspects de la vie. Peut-être quelqu'un va tomber malade et va peut-être mourir et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas essayé plus tôt de rétablir la relation? Et je parle surtout aux jeunes maintenant, travaillez là-dessus maintenant. Donc, surmonter les conflits dans votre jeunesse. Peut-être il peut y avoir aussi des conflits dans la vie adulte. Je ne sais pas s'il y a des exemples de situations qui peuvent être difficiles. En fait, ce que je vais faire, je vais finir la liste ici. Séparation et distance. Attendre trop tard pour développer une bonne relation. On voit dans la Bible que... Attendez, voilà. Que les relations entre frères et sœurs sont naturellement difficiles. Je prends juste un exemple comme ça qui a lieu dans les évangiles. Jésus est en train de prêcher dans un village, c'est dans l'évangile de Luc. Il y a deux frères inconnus qui viennent à lui et c'est marqué, du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre frère nous a laissé, que notre père nous a laissé. » Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est que des questions d'héritage. Des fois, ça peut être simplement parce qu'on a besoin d'argent et ou qu'on aime trop l'argent. Ça, c'est parce que malheureusement, les êtres humains en général ont cette faiblesse. Et donc, si le père ou les parents ont beaucoup d'argent, ça peut créer un conflit. Mais aussi, ça peut être simplement émotif. Ça peut être, par exemple, pas que c'est un gros montant d'argent dans l'héritage, mais un objet de valeur. Et c'est là où les frères et sœurs, et je parle encore aux jeunes, soyez prêts d'avance, parce qu'il peut y avoir des moments comme ça qui vous surprennent, où tout d'un coup, on sent que c'est tendu et il faut être prêt pour pouvoir discuter et régler les problèmes. Il y a eu le cas de Marthe et Marie, encore une fois dans l'évangile de Luc. Jésus est quelque part et son ami, il va manger chez son ami Marthe. Et à cette époque-là, comme aujourd'hui, mais beaucoup plus, c'est très important quand quelqu'un d'important vient chez vous, de bien l'accueillir. Et ce travail-là, c'était exclusivement le travail des femmes, de s'assurer qu'il y avait un bon repas. Ça faisait partie des conventions sociales. Et Marie, elle a vu ça différemment de Marthe. Marthe a dit, c'est mon rôle de s'assurer qu'il y ait vraiment un bon repas pour le rabbin qui arrive chez nous. Puis Marie, elle a dit, oh wow, Jésus est ici, je vais lui poser des questions. Et elle va s'asseoir au salon, si je transpose ça à notre temps, elle va s'asseoir au salon avec Jésus, elle est en train de l'écouter, lui poser des questions, et elle abandonne Marthe. Marthe qui a peur d'être humiliée qu'on va parler d'elle après. Oh wow, elle a accueilli Jésus, puis son repas était pas fameux, puis il y en a qui ont dit qu'elle a juste sorti les chips puis le coke parce que, tu sais. Alors, elle est fâchée contre Marie. Vous comprenez un peu la situation? Puis Jésus, lui, au lieu de dire, parce que Marthe dit à Jésus, mais dis-lui de m'aider. elle est excédée. Puis Jésus, il dit, écoute, elle a fait un bon choix. Alors, Jésus cause du trouble. Et voyez comment des situations imprévues peuvent causer des conflits entre deux sœurs adultes. J'imagine qu'elles ont pu régler ça par la suite. Peut-être que Jésus les a aidées. Mais ça prend une amitié solide pour parler de ces choses-là et les régler. Puis bien sûr, il y a ce cas-ci, le cas le plus dramatique peut-être, l'assassinat d'Abel par Caïn. On va lire l'histoire. Donc, ce sont les deux fils d'Adam et Ève dans l'histoire du début de la Genèse. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. C'est-à-dire, lui était cultivateur et agriculteur. Et Abel, lui, était plutôt berger. Donc, qu'est-ce que je dis là? Oui, c'est ça. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux à l'Éternel. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le, maîtrise le péché. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et Abel le tua. Ah là, je lis mal. Je suis vraiment désolé. Caïn se jeta sur son... Mais vous écoutez bien. Merci beaucoup. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. J'ai complètement changé l'histoire. Excusez-moi, je suis désolé. La question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qui vous frappe dans cette histoire? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez comme typiquement humaines, quelque chose que vous comprenez bien? Ou quelque chose que peut-être que vous ne comprenez pas dans les réactions qui ont lieu dans cette histoire où... Oui? Vas-y.
Moi, c'est la réaction de Dieu.
Oui.
Il est mieux un que l'autre.
Oui, on dirait que Dieu est... Dieu cause un problème ici. Alors... Peut-être qu'on n'arrivera pas à répondre à cette question maintenant. C'est pas le sujet de ce matin. On va essayer quand même. Mais ce qu'on voit, c'est que peut-être que Dieu est un peu comme un parent, c'est-à-dire Dieu peut avoir des préférences. C'est clair que Dieu a une préférence ici pour un certain comportement ou un certain geste. Et quand Caïn a réussi à le détecter, il l'a senti. Il y a quelqu'un d'autre ici qui avait levé la main, oui? Jalousie, oui. Et c'est ça, est-ce que un frère, une sœur peut vraiment être pris de jalousie pour, dans une espèce de concurrence entre... Deux frères. On n'a pas répondu à ta question encore, mais en fait, c'est ça qui se passe ici. Oui, Arménia.
Moi, ce que je comprends,
oui. Oui. Ça, c'est... Oui, c'est très, très important. Je pense dans la vie d'un parent, c'est ça, tu commences avec le principe « montrer zéro favoritisme ». Parce qu'on sait que les enfants sont fragiles et peuvent être jaloux. Qu'est-ce qu'un être humain, et il y a le risque qu'il devienne violent dans la jalousie. Par contre, ce qu'on veut que les enfants apprennent à gérer le sentiment d'envie ou de jalousie qui va leur arriver dans la vie de toute façon, au travail, à l'école. Dieu, comme un bon père ou comme une bonne mère, essaie d'enseigner à Caïn comment gérer la jalousie qu'il ressent. Et ça, je trouve ça intéressant. Encore une fois, ça répond pas à la question d'en haut. Pourquoi Dieu a préféré? Il y a Jacques, l'apôtre Jacques, pas l'apôtre, mais le Jacques, le frère du Seigneur, dans son épître, qui donne une interprétation, n'est-ce pas? Non. C'est Jacques ou c'est l'épître aux Hébreux qui dit, c'est à cause de la foi que le sacrifice d'Abel était préféré par Dieu. C'était dans l'épître aux Hébreux, hein, Hébreux chapitre 11. Mais bon, encore une fois, comment est-ce que Caïn a pu le savoir? Je ne sais pas. Oui. Oui.
Regarde à l'intérieur de toi, c'est quoi tes motivations, c'est quoi ton cœur? Puis, comme parents, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est, hey, est-ce que tu as réfléchi ce que tu as dit, ce que tu vas faire, pourquoi tu vas le faire? Puis, je trouve que c'est Dieu, il est tellement. Ça, c'est la free will, comment t'appelles ça en français?
Le libre arbitre ou le.
Regarde bien, là. Tu peux choisir le bien, tu choisis le mal. Oui. Et c'est à toi de choisir. C'est ça qu'on veut comme parents. Choisis le bien, mais regarde.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Oui. Dieu établit préalablement. Qu'est-ce que tu veux dire?
Identifie.
Dieu voit le cœur. Oui. C'est un peu comme, mettons un prof. J'ai une amie qui est prof d'université. Puis, elle m'avait dit, elle trouvait ça très dur, les étudiants qui venaient la voir, qui disaient, ben, moi, j'ai eu un B, puis je trouve ça chien, j'ai eu un B, puis, tu sais, un tel, il y a eu un A, puis, tu sais, et elle essayait d'expliquer à l'étudiant ou à l'étudiante, je sais pas quoi, écoute, c'est entre tes mains, là. Moi, j'ai donné A à elle parce que elle a fait ça. Mais le A, il est à ta portée, là. Si je t'ai donné B, c'est parce que t'as pas réussi à faire telle chose. Oui, mais. Non. Écoute, t'as eu un B, mais t'es capable d'aller chercher un A au prochain test. Moi, je crois que t'es capable. Alors, je vois un peu ça chez Dieu ici de réagir pas en levant le poing contre le prof ou contre l'autre étudiant, mais en disant, tu peux faire mieux, utilise ton sentiment pour le bien. Oui. Oui.
Il n'y a aucune injustice de la part de
Dieu. Merci. Alors, on a défendu Dieu, c'est parfait. Et alors, oui, un autre commentaire?
Parce que c'est pas juste parce qu'il offrait le meilleur. c'est qu'il ne faisait pas juste faire l'acte d'offrir comme étant une corvée à faire pour Dieu. Il le faisait avec joie, comme étant un privilège de servir Dieu et de faire donner de ses affaires. C'est pour ça qu'il donnait les meilleures de ses choses. Tandis que la manière que je vois le cœur de Caïn, c'est que Caïn voyait ça comme quelque chose à faire pour Dieu. Là. Fait que là, il donnait des offrandes qui étaient de moindre, qui étaient avec un cœur qui aurait eu besoin de se repentir de ses motivations.
Oui. Ses
motivations n'étaient pas les mêmes que celles d'Abel vis-à-vis faire donner des offrandes à Dieu. Pour Abel, c'était quelque chose de vraiment un privilège pour lui d'offrir.
Oui, oui. Oui, oui. Il y a cet aspect-là de ce qui s'est passé justement au moment de l'offrande. Mais je pense, il n'y a pas de mais. Et parce que ce que tu dis est très valide. Les trois histoires, on voit un frère ou une sœur, ok, qui se retrouve dans une situation où une injustice. Là, il y a un frère qui a hérité, probablement le frère aîné, et l'autre qui a peur, qui a vraiment peur, qui va rien recevoir. Ici, c'est une situation aussi d'injustice ou de jalousie où Marthe sent que Marie la laisse tomber dans un projet important. Hein, ça peut arriver même aujourd'hui. Un événement de famille ou quelque chose, ma sœur me laisse tomber, puis c'est moi qui fais tout le travail. Ou Caïn et Abel, ici une question un peu de concurrence, ce sont des choses qui arrivent. Dieu nous appelle à surmonter les conflits, à bâtir des relations sont vivifiantes. Le temps avance, hein? Je voulais vous dire, comment régler les conflits? Et en commençant à la maison, vous les jeunes. Alors, j'ai quelques suggestions. Comme on a fait aujourd'hui, on a parlé des problèmes. Et je crois que c'est être prêt à identifier le problème. Si tu es fâché contre ta sœur ou contre ton frère, prends le temps de réfléchir ou de parler peut-être avec un de tes parents. C'est quoi qui me bogue? C'est pourquoi je suis tellement fâché? Identifier le problème. Peut-être que c'est un truc qui est classique, comme on a vu tantôt. OK, elle partage pas ses affaires. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Il faut identifier le problème. Et c'est souvent une chose spécifique. C'est pas que ma sœur, c'est l'incarnation de Satan. Non, c'est qu'elle a pas voulu partager. Voyez-vous, on généralise, on grossit le problème. Donc, soyons prêts à prier, à se tourner vers Dieu. Dieu veut nous aider à régler nos conflits. Prendre du temps pour prier et être prêt à discuter dans l'amour. Ça, c'est très important. Quand on discute, écoutez l'autre. Il y a toujours deux côtés de la médaille. Et parfois, on a besoin d'une tierce personne. Des fois, j'entends, excusez-moi de parler de vous, Jessica et Lauriane, que je trouve bien, elles essayent de régler les problèmes. Puis des fois, ça finit, parce que nous, moi j'entends au loin, ils sont peut-être ailleurs dans la maison, je sens que le ton monte, puis ça redescend, puis après ça, je sens que, OK, là, le ton est devenu joyeux. Elles ont réussi à régler le problème. Ça, c'est génial. Mais des fois, le ton, il monte comme ça, puis je sais, il faut que j'y aille, parce que c'est la chicane totale. Et parfois, une tierce personne, un parent peut venir aider pour dire, OK, wow, OK, X, laisse Y parler, là, tu la laisses pas parler. Il faut écouter les deux côtés. Et c'est jamais la faute juste d'une seule personne. Il faut être prêt à pardonner. Hein? Jésus, dans Matthieu 18, Il y a deux paroles, dans, il me semble que c'est les deux sont dans Matthieu 18, où Jésus dit à Pierre, « Faut pas que tu pardonnes juste 7 fois, mais 77 fois, 7 fois à ton frère. » Et donne l'exemple du serviteur impitoyable qui se fait pardonner une dette énorme et qui ensuite refuse de pardonner une dette, d'une petite dette à son ami. Pardonner, pardonner, pardonner. Et être prêt à se regarder soi-même. La poutre qui est dans mon œil, nous rappelle Jésus. Comme je disais, les problèmes sont rarement causés seulement par l'autre personne. Il faut aussi prendre la décision de renoncer à la violence. Violence physique ou verbale. Oui, c'est ça. Et ça, les parents peuvent aider et dire... Et les parents, d'abord, doivent renoncer à la violence. Mais de parler, d'intervenir d'une manière qui rabaisse pas d'une manière injuste l'autre personne. Ça, c'est très important. Et en apprenant en famille, on va le pratiquer aussi ailleurs. Le but, c'est l'amour. C'est de développer des relations où on élimine tout ce qui est destructeur et nocif. Je vais conclure. Je vais vous parler de deux sœurs. En fait, je vais vous dire c'est qui. C'est ma femme et sa sœur qui ont grandi. Cheryl et sa sœur Mélodie, sa grande sœur Mélodie, qui elles ont grandi dans la même chambre, en fait, pendant longtemps. Un peu comme, oui, oh là là. Et en plus, il y avait des périodes... parce que c'était pas une famille avec des grands moyens. Elles avaient le même lit à certains moments. Ça, t'as connu ça aussi? Oui. Et il paraît que, tu sais, il y avait comme une manière de tracer la frontière des deux pays, mon pays et ton pays, puis ça pouvait être très difficile. Et ça se chicanait beaucoup. À un moment donné, mon beau-père a dit à ses deux filles, après les avoir séparées d'une autre dispute, si vous devenez des amis, quand vous êtes adultes, je vais vraiment être fâché parce que vous m'avez tellement fait souffrir que je vais penser que tout mon travail était pour rien. Mais qui est une drôle de manière de s'exprimer, mais je comprends un peu. Et elles sont devenues des amies. Elles sont des amies aujourd'hui. Et donc, je souhaite pour tous que vous restiez des amis ou que vous deveniez de meilleurs amis, que vous appreniez dans votre famille naturelle qu'est-ce que ça veut dire un peu être un bon frère, être une bonne sœur, dans la communauté chrétienne, ici à l'Église de l'Art des Ormeaux ou ailleurs, dépendamment de où vous êtes en communauté. Devenez des amis, redevenez des amis, soyez une bonne sœur ou un bon frère les uns pour les autres. Oups! Et j'aimerais qu'on prenne un moment de réflexion silencieux. Est-ce que vous pouvez penser à un point d'action cette semaine? Peut-être faire un geste d'amitié ou de réconciliation envers quelqu'un. Ça peut être votre frère, votre sœur. Ça peut être aussi quelqu'un dans l'Église. Prenons un moment pour réfléchir. À un point d'action pour cette semaine. Puis je vais clore par la prière dans un instant.